VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 21 décembre 2016 en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, des morts dans les violences qui ont marqué hier dans plusieurs grandes villes, la fin constitutionnelle du mandat du président Joseph Kabila, un dossier à ce sujet en début d'édition.
En Gambie, Yahya Jammeh persiste et signe, il ne quittera pas le pouvoir au terme de son mandat le mois prochain, a-t-il souligné dans un discours hier soir.
En Allemagne, vaste chasse à l'homme pour retrouver l'auteur de l'attaque au camion Bélier sur un marché de Noël de Berlin.
Au Mexique, une explosion sur le plus grand marché de feux d'artifice du pays a fait au moins 29 morts et 70 blessés hier près de Mexico.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, des violences à Kinshasa et dans plusieurs grandes villes ont fait plusieurs morts hier dans le pays. Pour sa part, l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à résister pacifiquement contre le maintien du président Joseph Kabila, dont le mandat a désormais expiré. De Kinshasa, le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
9 morts à Kinshasa, bilan officiel communiqué par le gouverneur de la ville. 5 à Boma dans le Congo central, en plus de 10 blessés par balle. Une dizaine à Lubumbashi selon la société civile et plusieurs témoignages, alors que les autorités locales évoquent 2 morts. C'est le bilan lourd mais provisoire des manifestations du mardi 20 décembre 2016 au lendemain de la fin du mandat constitutionnel du président Kabila. L'ONU, elle, parle de 20 morts et dénonce en plus l'arrestation de 113 personnes depuis le 13 décembre dernier. La situation était tendue dans plusieurs villes du pays, notamment à Kananga où, selon Amber Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, la tentative d'incursion d'une milice a été repoussée par des forces de l'ordre sans faire des victimes, précise-t-il. Réagissant à cette tension dans le pays, le nouveau Premier ministre Sami Badibanga a d'ailleurs lancé un appel à la paix et à la tranquillité sur toute l'étendue de la République. C'est dans ce contexte que reprennent ce mercredi 21 décembre des discussions sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo entre le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution d'une part et de l'autre les signataires de l'accord politique du 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine avec pour objectif une gestion consensuelle de la transition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale des crépitements d'armes ce matin encore dans la deuxième ville du pays où la tension reste vive, nous a-t-il dit. Quant aux autorités congolaises, elles ont dénoncé les discours incendiaires visant, et je cite, à prendre le pouvoir par l'insurrection populaire. Joint par Eddie Sango, écoutons de Kinshasa Barnabé Kikaya, conseiller du président Joseph Kabila.
Il est vrai que le mandat électif du chef de l'État se termine aujourd'hui, mais l'article 70 de la Constitution recommande que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un président élu à qui il va transférer le pouvoir. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de président élu, le président de la République reste en fonction tel que l'a décidé la Cour constitutionnelle qui a tranché dans ce sens. Alors, toute cette rhétorique à propos de manifestations n'est que une propagande malveillante de ceux qui veulent embraser la République démocratique du Congo. La population congolaise en a assez de toute cette rhétorique qui prône la violence, qui prône la prise de pouvoir par l'insurrection. La population n'en veut pas. La population congolaise, dans son ensemble, a déjà pris l'option de la voie des urnes pour accéder au pouvoir en République démocratique du Congo.
Retour sur les manifestations meurtrières hier à travers le pays. Le gouvernement parle de 9 morts à Kinshasa, mais les défenseurs des droits de l'homme estiment qu'il y en a plus. Eddie Sango a joint à Kinshasa le directeur exécutif de COOD, le Comité des droits de l'homme et de développement, Henri Christa Longenja.
Le gouvernement reconnaît à Kinshasa 8 morts, alors que c'est plus de 8 morts. Et quand le gouvernement dit que voilà, ce sont des bas perdus, mais pourquoi utiliser les bas réels qui seraient perdus pour tuer les gens? Ça veut dire qu'ils ont utilisé des bas réels. Sans compter les morts à Butembo où un groupe Maï-Maï est entré et on a déploré même la mort d'un sujet de la MONUSCO sud-africain qui a succombé à Butembo, toujours à l'est du pays. À Goma, tout comme à Lubumbashi, il y a encore des échanges de tirs et que lorsqu'il y a des tirs, bien entendu, il doit y avoir des morts. Et voire même à Kinshasa, lorsque nous parlons même de 20 morts là, parfois ça peut être plus parce que la nuit, il y a eu des coups de feu dans tous les coins de Kinshasa. C'était les pratiques, c'est que nous craignons qu'on puisse abattre les jeunes gens la nuit et emporter les corps rapidement.
En RDC toujours, c'est en principe aujourd'hui que doivent reprendre les travaux des négociations directes entre les signataires de l'accord issu du dialogue et l'opposition qui l'a boycotté. Mais bien des choses se sont passées entre-temps, comme vous le savez. Les évêques catholiques qui assurent la médiation estiment que le dialogue doit se poursuivre malgré la formation d'un nouveau gouvernement, l'appel à la désobéissance civile et les manifestations meurtrières d'hier. C'est ce qu'a déclaré à Eddy Sango, le secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Congo, l'abbé Donatien Solé.
La publication du gouvernement ne change pas le programme. Les évêques étaient informés déjà avant qu'il y aurait ce gouvernement qui se justifierait pour des raisons d'urgence. S'il y a des clauses de l'accord qui exigent la révision du gouvernement, ils allaient le faire.
Les positions se sont durcies avec notamment l'appel de M. Tshisekedi à la désobéissance civile.
Ben, mais j'ai aussi compris que M. Tshisekedi n'a pas fermé la porte au dialogue à la CENCO.
Avec la publication de ce gouvernement, l'opposition accuse le pouvoir ou la majorité présidentielle de vouloir continuer dans la logique du dialogue tenu sous M. Kodjo.
Il n'aura qu'à le démontrer parce que verbalement, il est déjà à négocier. On n'a pas trop de temps à perdre. Du moment que l'épiscopat se rendra compte qu'il n'y a pas une volonté de négocier de part et d'autre, il prendra ses dispositions. On ne va pas se laisser rouler dans la farine en tout cas.
Et ce dialogue se tient justement pour éviter les chaos dans le pays, mais les troubles ont commencé déjà. Qu'est-ce que vous allez faire?
C'est regrettable. Raison de plus pour que les hommes politiques comprennent qu'ils doivent mettre le peuple au centre de leur politique.
L'opposition congolaise réunie autour d'Étienne Tshisekedi estime également pour sa part que le dialogue doit se poursuivre. Eddy Sango a joint pour le point de vue du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution, Lisanga Bonganga.
Le dialogue autour des évêques a sa raison d'être. Nous sommes allés à ce dialogue pour remettre la RDC dans une situation d'un pays normal où on doit décrypter la situation en libérant les détenus politiques et les prisonniers et en faisant rentrer au pays les hommes politiques qui sont considérés comme des exilés. Un pays normal qui doit avoir son calendrier électoral avec un consensus de tout le monde. L'après mandat de Kabila, on fait quoi? Il y aura une transition avec ou sans Kabila? Quelle est la position de l'opposition, la position du Rassemblement? Nous n'avions jamais eu comme intention d'aller à ce dialogue pour aller parler du gouvernement Sami Badibam. De toutes les façons, ce gouvernement-là fait partie des problèmes. Et pour la première fois autour des évêques, on a eu, en tout cas, la certitude que nous sommes en train d'aller de l'avant. Pour une fois, on a eu cette chance de voir que du côté de la famille politique de Kabila et lui-même, et du côté de la famille aussi, du président Étienne Tshisekedi et nous-mêmes aussi, qu'ils étaient s'asseoir les mains, tous nous nous sommes accordés pour accepter cette médiation de la CENCO soutenue par la communauté internationale. Une telle chance, on ne peut pas la rater. Il faut qu'on se mette d'accord pour voir comment nous devons atterrir. Beaucoup de jeunes gens sont arrêtés, mais nous continuons, c'est pas ce qui va nous effrayer. Nous devons tout faire pour que la victoire soit du côté du peuple congolais.
Et merci à Eddy Sango et à Top Congo FM à Kinshasa pour ce dossier sur la situation en RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Gambie, le président Yahya Jammeh, qui rejette sa défaite électorale au scrutin présidentiel du 1er décembre, a annoncé hier soir qu'il ne quitterait pas le pouvoir au terme de son mandat le 18 janvier prochain. Jammeh, qui s'exprimait à la télévision publique, a également condamné la CEDEAO, qui a annoncé ce week-end qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour que le résultat de la présidentielle soit respecté.
Le procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné en mai 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar, s'ouvrira le 9 janvier. C'est ce qu'a annoncé Marcel Mendy, porte-parole du tribunal spécial.
La police allemande était engagée hier dans une chasse à l'homme. Sa principale piste s'étant écroulée plus de 24 heures après l'attaque au camion bélier sur un marché de Noël de Berlin. Les enquêteurs ont dû se résoudre à libérer hier soir leur seul suspect, un demandeur d'asile pakistanais. Faute d'éléments, l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique et elle a fait 12 morts dans un marché de Noël à Berlin.
Une explosion sur le plus grand marché de feux d'artifice du Mexique a fait au moins 29 morts et 70 blessés hier à Tultepec, près de la ville de Mexico. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La société ivoirienne de banque annonce avoir amélioré son coefficient d'exploitation à 51,4% au terme du premier semestre. Les indicateurs d'activité de cette période font ressortir une accélération de 17% du produit net bancaire qui atteint 24,26 milliards de francs CFA alors que les charges d'exploitation n'ont progressé que de 13% à 12,4 milliards de francs CFA sur la même période. La Tunisie pourrait émettre un emprunt obligataire sur le marché financier chinois pour financer des projets de développement économique. Le principe est de conclure un accord de swap de devises, yuan chinois, dinar tunisien, pour régler une partie des opérations commerciales et financières en monnaie nationale. Cela devrait atténuer les risques de change pour les deux parties et intéresser davantage les importateurs chinois aux produits tunisiens. Pour finir, le Cameroun inaugure 3 centres de formation professionnelle d'excellence construits à hauteur de 24 milliards de francs CFA par la Corée du Sud dans les villes de Songmélina, Limbé et Douala. Dotés d'équipements ultramodernes, ces centres formeront des centaines de jeunes dans des métiers tels que la transformation du bois, la mécanique, l'habillement, l'électricité, l'électronique, l'informatique, le multimédia et l'hôtellerie. Cela améliorera l'offre pour une insertion réussie de ces jeunes et des demandeurs d'emploi.
Les sports à présent avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Cannes 2017 et défection en série chez les Lions indomptables.
Oui, dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football a annoncé les défections de plusieurs internationaux en vue de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera, je vous le rappelle, au Gabon. Parmi eux, Joël Matip, le défenseur de Liverpool, qui met en avant une mauvaise expérience avec le staff précédent, mais aussi plusieurs joueurs de Ligue 1, notamment André Zambo Anguissa, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Il préfère rester en club et préserver sa place de titulaire. Même motif pour le Lillois Ibrahim Amadou. Quant à Guy Roland Diassembe, il ne sera pas non plus en sélection camerounaise. Enfin, Maxime Pounjé, l'arrière-gauche de Bordeaux, a lui aussi décidé de ne pas jouer pour le Cameroun, mais cette fois-ci, il jouera avec la France.
On reparle de la corruption à la FIFA.
La FIFA a annoncé hier l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire à l'encontre du Nigérian Amos Adamou, l'ancien membre du comité exécutif de l'instance, déjà suspendu 3 ans en novembre 2010 pour des soupçons de corruption dans l'attribution des mondiaux 2018 et 2022. Cette nouvelle procédure fait suite aux investigations menées depuis mars 2015 par la chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA. Eh bien, cette chambre recommande une suspension de 2 ans de toute activité liée au football et une amende de 20 000 francs suisses contre Adamou pour violation du code d'éthique de la FIFA.
Le football encore sur le plan judiciaire.
Oui, le tribunal arbitral du sport de Lausanne a réduit la sanction sur les transferts imposés par la FIFA au Real Madrid, qui reste toujours privé de recrutement cet hiver, mais qui pourra désormais engager des joueurs à l'été 2017. On se souvient initialement que le Real, entraîné par Zinedine Zidane, avait été interdit de recrutement pour les 2 prochaines fenêtres du mercato pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs. Allez Idrissa, on se quitte avec les résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
New Orleans Pelicans, Philadelphia, 108-93. Los Angeles Lakers, Charlotte, 113-117. Brooklyn Nets, Toronto, 104-116. Indiana, New York Knicks, 111-118. Orlando, Miami, 136-130. Cleveland, Milwaukee, 114-108. Boston, Memphis, 112-109. Et San Antonio, Houston, 102-100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Sans surprise, des violences ont eu lieu en République démocratique du Congo au lendemain de la fin constitutionnelle du deuxième mandat de Joseph Kabila. Thierry Vircoulon est le coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI. Il estime qu'en RDC, l'histoire risque de se répéter. Selon lui, l'épreuve de force avec le pouvoir pourrait se délocaliser en province et prendre la forme de rébellion locale. Nicolas Pinault a joint Thierry Vircoulon.
C'est une situation qui était annoncée, je crois, depuis longtemps, en fait. Depuis le 2011 et le deuxième mandat, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pariaient sur le fait que le président Kabila se retirerait à l'issue de la fin constitutionnelle de son régime. Je crois que ça fait déjà plusieurs années que beaucoup de gens voient cette crise venir, et surtout les Congolais d'ailleurs, que la perspective d'un départ et d'une alternance démocratique cette année a été assez largement une illusion qui a été peut-être un peu entretenue dans la communauté internationale, mais qui s'est vite dissipée. Je ne pense pas que ce sont les sanctions qui vont forcer à ce que des élections aient lieu. Je crois qu'on est maintenant clairement dans une confrontation très binaire entre le rassemblement et puis le camp présidentiel. On est surtout dans une hypothèse maintenant de pourrissement de cette crise politique qui pourrait se transformer en autre chose dans les semaines, voire dans les mois à venir.
Et vous dites que l'histoire risque de se répéter en RDC, synonyme notamment de rébellion.
Synonyme de rébellion, synonyme de violence politique. Il y a beaucoup de similarités entre cette situation et ce qui a été vécu dans les années 90. La première similarité, c'est évidemment Étienne Tshisekedi, puisqu'il était déjà présent et leader de l'opposition à cette époque. La deuxième grande similarité, c'est évidemment un président qui essaye de rester, de se prolonger au pouvoir contre la vie de son peuple. Et la troisième grande similarité, c'est le fait que le régime de Mobutu était kleptocratique et que celui de Kabila l'est également. Cette situation, et du coup, ça le rend fragile, puisque la grande fragilité de la kleptocratie, c'est l'argent. Et on entre maintenant dans une phase économique, dans une période économique très difficile pour le régime congolais, comme le début des années 90 a été très difficile économiquement pour le régime Mobutu.
Quel salut vous pensez pour la population congolaise qui déjà en 2011 s'était exprimée massivement lors des élections?
Je crois que c'est elle qui va définir son avenir. Elle a signifié un ras-le-bol extrêmement grand. Vous dites qu'elle s'est exprimée massivement aux élections de 2011. Malheureusement, son expression a été, comme qui dirait, détournée, puisque les élections de 2011 ont été assez largement frauduleuses. Donc on sent bien qu'il y a un mouvement de fond dans la jeunesse congolaise, un vrai désir de changement, et que c'est peut-être elle qui va finalement écrire l'histoire, plus que l'opposition politique, parce qu'on a bien vu que les mouvements de rue qui se sont déroulés depuis 2015, en règle générale, étaient spontanés et n'attendaient pas des mots d'ordre politique.
C'était Thierry Vircoulon, coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI.
Dans Washington Forum ce jeudi, on décrypte l'ambiance confuse et explosive en RDC alors que le régime réprime la contestation réclamant le départ du président Kabila, dont la fin du mandat officiel est dépassée. Quelle est réellement la situation sur les manifestations meurtrières à Kinshasa, Lumumbashi et ailleurs dans le pays? Que fait la MONUSCO? Où en est la médiation menée par les évêques? Et enfin, quid de l'opposition toujours divisée sur la suite de la transition politique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
En République centrafricaine, un nouveau groupe armé appelé les 3R, entendez retour, réclamation et réhabilitation, qui prétend défendre les Peuls, a commis de nombreuses exactions sur la population civile dans des préfectures de l'ouest du pays. Au micro de Félix Yepassi Zembrou, le président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, Joseph Bindoumi.
C'est depuis ces deux temps qu'un homme qui s'est proclamé général du nom du Sidik a commencé d'abord par sortir au niveau de Bukaranga dans la circonscription de Kouy pour prendre qu'il venait protéger les verts peuls. Puis il s'est installé, il a fait introduire des armes dans le pays et à l'époque, les forces internationales étaient au courant et ils l'ont amené jusqu'à Bangui pour qu'il soit reçu par les autorités, il est reparti et avec les questions du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, chaque personne veut accélérer ses actions ces derniers jours, occupant une partie du territoire national et puis il se réclame des 3R.
Quelle est la position de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme face à cette situation qui prévaut justement dans l'arrière-pays?
La Ligue condamne avec la plus grosse énergie ce qui se passe dans le pays. Nous avons averti les autorités de la place qu'à force de tendre la main, soi-disant, aux malfaiteurs, nous risquons d'arriver à une situation d'anarchie. Quelqu'un ne peut pas quitter l'étranger, venir s'installer sur une partie de notre territoire sous prétexte que nous n'avons pas d'armée et puis que nous sommes sous embargo, et puis piller, tuer, violer librement, et puis proclamer qu'il a créé un mouvement politique militaire. Et demain, vous apprendrez que à force de ne pas être clair avec les malfaiteurs, nous risquons de nous retrouver avec des proliférations de groupes armés qui vont déchiqueter notre pays. Alors, je vous informe que la République centrafricaine aujourd'hui avait une partie qui était considérée comme la partie calme. Or, aujourd'hui, ce groupe de 3R commence à s'attaquer à une partie de la Nana Mambéré et une grande partie de l'Ouam-Pendé et est de nature à faire croire à la communauté internationale que le pays est pratiquement sens dessous, sens dessus sur tout le territoire national. Et c'était à nous de prendre des dispositions pour que ce genre de comportement-là ne voit pas le jour. Je vous informe dans la gravité que si ce groupe de 3R continue à sortir comme on a les UPC, comme on a les FPRC, de nombreux groupes qui se créent maintenant, vous risquez d'avoir aussi des groupes anti-Baraka qui vont se constituer en d'autres groupes qui vont faire en sorte que la République centrafricaine soit pratiquement considérée comme la Somalie.
Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En Côte d'Ivoire, la coalition formée autour du président Alassane Ouattara a raflé la majorité des sièges des législatives de dimanche. L'ex-parti de Laurent Gbagbo, l'ancien président, n'a gagné que 3 sièges, tandis que les indépendants en ont obtenu 75. Éric Manirakiza a joint à Abidjan le directeur de publication du quotidien La Voix Originale, suspendu pour 30 jours depuis le 7 décembre dernier, César Itou.
L'opposition crédible a appelé au boycott. Ce qui fait que la coalition au pouvoir, le RHDP, s'est retrouvée face à elle-même. La coalition et ses dissidents qui sont les indépendants que nous voyons. Alors voilà les résultats qu'on obtient à vue d'œil. La coalition au pouvoir, 167 députés. Les indépendants, 75 députés. L'UDPCI, 6 députés. UPCI, 3 députés. FPI de Pascal Afingessa, 3 députés.
Qu'est-ce qui fait que les indépendants, quand même, enregistrent un grand score?
Rien n'a changé parce que ces indépendants sont tous des militants du RHDP, c'est-à-dire de la coalition au pouvoir, qui sont rentrés en dissidence parce que leurs candidatures ont été rejetées par la coalition. Donc ils se sont présentés en indépendants, mais on sait ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ils vont tous rejoindre leurs partis politiques à partir du moment où ils ont gagné. Ce qui fait que le RHDP se retrouve avec 167 députés, plus 75, ça va constituer déjà 242 députés. Donc la coalition au pouvoir se retrouve encore une fois dans une assemblée qui va être extrêmement monocolore.
Donc le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo qui a appelé au boycott. Le taux de participation est de 34%. À qui profite la chaise vide?
À chaque élection, la démonstration est faite que le pouvoir de M. Alassane Ouattara est illégitime. Ce taux de participation n'est pas du tout élevé, malgré la diversité apparente des candidatures, montre bien que la population n'est pas allée voter. Elle a obéi au mot d'ordre de boycott parce que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le dit.
Et à qui profite la chaise vide?
La chaise vide profite à ceux qui ne sont pas allés voter et qui ont quelque chose à démontrer, qui ont quelque chose à réclamer, à exiger des conditions indépendantes, c'est-à-dire à l'opposition crédible, l'opposition représentée par le parti FPI du président Laurent Gbagbo, dont l'intérimaire est Abdourahmane Sangaré.
Mais ils ne vont pas siéger au Parlement, c'est donc 5 autres années de pertes pour le FPI.
Oui, ça veut dire que se présenter et subir la violence, l'arbitraire, ce parti a préféré ne pas aller se prêter à un jeu où rien n'était transparent. C'est ça qui est le problème. Les Ivoiriens ont envie de vivre, n'ont plus envie de connaître la violence électorale. Le jour où les conditions seront réunies pour qu'il n'y ait plus de boycott, vous allez voir, ce parti-là va rafler tous les sièges. Pour l'instant, on continue avec un parlement monocolore et c'est dommage pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
C'était César Etou, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, suite de notre série sur VOA Afrique. L'épidémie qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016 est la plus grande jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, presque exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort selon l'OMS. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Le monde est-il prêt à faire face à la prochaine épidémie? VOA Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte contre Ebola. Zakaria Camara s'est rendu à Kissidougou pour voir quel était le niveau de suivi des patients guéris d'Ebola.
Tous les jours, Madame Thérèse Soropogui communique avec les guéris d'Ebola de Kissidougou.
Si par exemple c'est quelqu'un, c'est un guéri qui est malade, on met une équipe d'investigation sur le terrain. On oriente ce malade vers la structure la plus proche. Ça peut être un poste de santé ou un centre de santé. D'où on fait une prise en charge. Et si au niveau de ce poste, il ne peut pas faire la prise en charge, on oriente immédiatement au niveau de l'hôpital.
27 au total, ces anciens malades surveillent au quotidien leur communauté. Objectif, remonter toute information importante à la direction préfectorale de la santé.
Ils nous appellent pour nous dire s'il y a des événements. Ces événements peuvent être soit s'il y a un décès au niveau de leur communauté, s'il y a même des guéris d'Ebola qui tombent malades, s'il y en a, ils nous informent. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est venu d'une zone affectée ou bien un étranger est venu au niveau de la communauté, il nous informe.
Si l'information concerne un guéri d'Ebola, il est ensuite conduit vers le centre le plus proche pour une prise en charge gratuite. Depuis sa sortie d'un centre de traitement, Farah, élève de secondaire, assure la surveillance dans son quartier.
On nous a octroyé des crédits et l'argent pour les appeler. S'il y a des cas de maladie, on les informe. S'il y a des cas de décès, on les informe. Et si on reçoit aussi des étrangers, on les informe.
Ebola avait mis à nu la faiblesse du système sanitaire guinéen. La maladie a fait plus de 2500 morts. Pour éviter toute surprise, des centres de traitement épidémiologiques sont installés dans tout le pays. Du retour de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.